Session d'initiation théologique par le Père Philippe sur la Trinité, réponse aux questions, le 17 mars 1989 à Rimont.
Vous me direz si vous entendez. Bien. Oh, oui. Toujours quelqu'un qui se met dans le fond pour être sûr que ça marche jusque là-bas. Alors, il y a deux questions. Je répondrai, puis après je demanderai si vous en avez, si vous n'en avez pas. On continuera. Est-ce que l'analogie du Fils n'ajoute pas une perfection que le Verbe n'indique pas? Le Fils, vivant parfait, pourra lui-même être source d'un nouveau fruit immanent. C'est bien évident que quand il y a la nécessité de deux analogies, c'est que chaque analogie dit quelque chose que l'autre ne dit pas. L'analogie du Verbe montre le fruit immanent de la connaissance. Mais comme nous n'avons aucune expérience d'un concept substantiel, l'analogie du Verbe montre uniquement un fruit de surabondance au point de vue de la connaissance dans l'immanence, et dans l'immanence la plus pure. Tandis que l'analogie du Fils montre un fruit substantiel, ce que le Verbe ne dit pas. Je vous disais, et ça je crois que c'est très important, que toute théologie scientifique, comme le veut saint Thomas, a toujours deux analogies. Mais saint Thomas ne les met pas toujours en lumière. Vous voyez, pour la grâce, saint Thomas emploie l'analogie de la nature et l'analogie de l'habitus, de la qualité. La grâce est une qualité, la grâce est une nature substantielle. Humainement parlant, les deux ne coïncident jamais. Le Verbe et le Fils, humainement parlant, ça ne coïncide jamais. C'est bien évident. C'est pour ça que la tête du Fils n'est pas nécessairement celle que le Père aurait désirée. Tandis que quand la connaissance est parfaite, il y a une connaissance qui est plénière, dans une similitude parfaite. Donc, c'est très juste que l'analogie du Fils dit quelque chose que l'analogie du Verbe ne dit pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'aspect substantiel. Un fruit substantiel vivant. Donc, une nouvelle source de vie. C'est sûr. Ce que le Fils dit. Ce que le Fils peut être source de vie. Il dépend du Père, mais il est lui-même autonome comme un vivant parfait. Et alors, ces deux analogies sont données dans l'Écriture. Elles ne sont pas toujours données dans l'Écriture, mais ici elles sont données. Sont souvent données dans l'Écriture. Si on a, oui, pour la grâce. La grâce, c'est le levain, c'est une naissance nouvelle. Donc, si je suis attentif, je vois les deux analogies. Les deux analogies, celle du Verbe et du Fils, sont données dans l'Écriture. Prologue de saint Jean, et puis l'Annonciation. S'il y a des questions là-dessus, vous les posez bien. Je vais tout de suite voir la seconde, puis vous direz. Est-ce que, au lieu de la procession, on ne pourrait pas utiliser immédiatement la fécondité immanente de l'amour que l'on découvre, par exemple, dans le passage du premier amour à l'intention de vie? Eh bien, dans une théologie scientifique, l'intelligibilité est toujours première. Les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance et non pas du point de vue de l'amour. Or, il s'agit de montrer que nous sommes en présence d'un degré de vie absolument parfait. Dieu, c'est le degré de vie dans sa perfection absolue de la contemplation. Pourquoi c'est l'intelligence qui est première par rapport à l'amour? Parce que l'intelligence structure, l'amour non, de façon générale. La connaissance nous donne l'autonomie. Nous sommes autonomes dans les domaines où nous connaissons. Mais dans les domaines où vous ne connaissez pas, vous êtes toujours en dépendance pour les élections. À moins que quelqu'un soit très, très, très attentif et des bons moines, même quand il s'agit d'élections municipales. Ça ne va absolument pas ce qu'il faut faire. Parce qu'ils ne connaissent pas. Alors ils interrogent. À droite, à gauche. Ils m'interrogent. Pour être un peu autonome, un peu indépendant, et puis faire une chose intelligente. Parce que quand même, c'est un acte de citoyen. Et voter, c'est un acte de citoyen. Donc, autant que possible, il faut le faire selon la prudence et selon l'intelligence. Vous ne votez pas nécessairement pour le candidat que vous aimez le plus. Votez pour le candidat qui vous semble le plus apte à remplir telle fonction. Votez pour le candidat que vous aimez le plus, c'est pas politique du tout. C'est passionnel. Ou c'est amical. C'est pas prudent au point de vue politique. Sauf si celui que vous aimez le plus est l'homme le plus intelligent politiquement. C'est l'homme le plus capable de remplir ce rôle. Vous ne votez pas pour le petit copain. Oh, celui-là, il est merveilleux, on est toujours d'accord, c'est merveilleux. Avec lui, on n'aura pas de difficulté. Non. Quel est celui qui fera le plus bien à la commune, à l'État? C'est lui qu'on vote. Si on est chrétien, celui qui, de fait, comprendra la liberté de l'Église. Je ne peux pas voter si je suis chrétien pour quelqu'un que je sais mettra des bâtons dans les roues par rapport à l'Église. Je n'ai pas le droit en tant que chrétien. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre que la connaissance me rend libre et me permet un acte libre. C'est vrai dans tous les domaines, vous voyez. Dans le domaine de la théologie. Si vous ne connaissez rien au point de vue de la théologie, ah oui, il est théologien. Il enseigne, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas celui qui a des diplômes qui est le plus intelligent. Tout le monde sait. Il y a des imbéciles qui enseignent. Ça existe. Dans tous les pays, il y a des imbéciles qui enseignent. On ne sait pas trop comment ils ont eu leur diplôme. Peut-être par des pots de vin, c'est possible. Mais toujours est-il qu'ils enseignent. Ils sont des imbéciles. Ça ne veut rien dire du tout. L'intelligence est autre chose. Et la théologie est autre chose, puisque c'est une question de foi. Quelqu'un qui n'a plus la foi n'est plus un théologien. Science subalternée à la connaissance des saints, c'est-à-dire la vision béatifique. Vous voyez, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on voudrait faire de la théologie une science autonome. J'ai connu ça, parce que j'ai quand même été à Fribourg un petit moment, à l'université, et je voyais très bien que les théologiens ne voulaient pas être jugés par les évêques. Nous acceptons d'être jugés par nos pères, c'est-à-dire par d'autres théologiens d'université. Mais comme si la théologie était une science comme toutes les autres sciences. C'est une science subalterné à la vision béatifique. C'est une science qui présuppose la foi, mais pas seulement des connaissances, pas seulement des compétences. C'est terrible, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je voyais la manière dont on recevait une thèse de théologie, on la recevait si on jugeait qu'elle était conforme à la méthode. On ne se posait même pas la question de savoir si c'était conforme à la tradition de l'Église. Donc la foi était mise entre parenthèses. Ça va très loin, ça. Vous voyez, il y a une laïcisation de la théologie qui est terrible. Cette laïcisation de la théologie explique comment aujourd'hui, il n'y a plus cette recherche de la vérité. Ça, il faut être attentif à ça, parce qu'il ne s'agit pas de se laisser prendre. Hein. Il vaut mieux être mis à l'écart que de coopérer à des erreurs. Alors, vous voyez, est-ce qu'au lieu de la procession, selon l'intelligence, on ne pourrait pas utiliser immédiatement la fécondité immanente de l'amour? Eh bien non, parce que l'amour présuppose toujours la connaissance. En théologie scientifique, hein, souligne bien, en théologie mystique, serait peut-être différent. Je dis serait peut-être différent, je ne suis pas absolument sûr. Vous voyez, en théologie mystique, est-ce qu'on devrait parler en premier lieu de l'Esprit Saint et remonter de l'Esprit Saint au Père? C'est possible. Ce serait par l'émission. Or, par l'émission, c'est sûr que c'est l'Esprit Saint qui est donné en premier lieu. Mais alors, on va regarder peut-être ça, parce que, à moins qu'il y ait d'autres questions. Il y a d'autres questions, on va tout de suite y répondre, mais là, c'est une des questions intéressantes, vous voyez. Donc, le traité de saint Thomas sur la très sainte Trinité commence par la procession et termine par l'émission. Attention, hein. Mission n'a pas le sens de missionnaire. Mission a un sens particulier ici. On dit que l'Esprit Saint nous est envoyé. La mission. C'est un très beau traité pour saint Thomas, le traité des missions. C'est plus facile pour nous de comprendre les missions. Et les missions ne peuvent se comprendre que par les processions. De sorte qu'on est bien obligé de commencer par les processions. Théologie scientifique, hein. La mission des personnes divines. Question 43. Ici, c'est 27, hein, je crois. Première question. 27. Je voulais vous en parler ce matin. Pas eu le temps. Donc, le traité de la très sainte Trinité commence par la procession et se termine par la mission. Alors, comprenons bien la différence qui existe entre les deux, puis on verra si on a le même ordre. La mission, texte qui domine la mission, texte de l'Écriture, c'est justement le texte où on lit en saint Jean « Je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. » Le Père a envoyé son Fils, son Jésus. C'est vraiment des deux côtés des expressions qui existent directement dans l'Écriture. L'une, c'est Saint Jean 8, 16. Et l'autre, c'est Saint Jean, ce qu'on a vu ce matin. C'est Saint Jean 8, 42. Notre texte, hein. Mais la mission est avant la possession. Très amusant. Donc, qu'est-ce que c'est que la mission ? C'est une personne qui est envoyée par une autre. Le Fils est envoyé par le Père. L'Esprit Saint est envoyé par le Père et par le Fils. Donc, seul celui qui est source de la procession peut envoyer. Puisque dans le mystère de la très sainte Trinité, étant donné qu'il y a l'unité dans les trois personnes, il n'y a pas d'autorité qui s'exerce dans la très sainte Trinité. Le Père n'exerce pas son autorité sur le Fils. Et le Fils n'exerce pas son autorité sur l'Esprit Saint. Il y a un ordre, mais il n'y a pas de premier et de second. C'est ce qu'on voudrait beaucoup, ça. Mais la démocratie divine, c'est extraordinaire. La très sainte Trinité, il n'y a pas d'autorité. Le Fils, le Père est premier, mais le Père, au sens strict, n'exerce pas d'autorité sur le Verbe. Exercer son autorité sur le Verbe incarné. C'est-à-dire sur le mystère du Christ en tant qu'il est le Verbe incarné. Le Christ est soumis au Père. Le Christ obéit au Père grâce à son humanité sainte. Il est mort dans l'obéissance. Et le Verbe de Dieu, le Verbe éternel de Dieu, au sens strict, n'est pas soumis au Père. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'unité. Donc il n'y a pas d'autorité dans la très sainte Trinité. L'autorité commence avec la création. Dès qu'il y a création, dès qu'il y a causalité, il y a autorité. Tandis que le Père étant premier, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a un ordre. Il y a un ordre. Le Père est premier, relativement au Verbe, relativement au Fils, et relativement à l'Esprit Saint. Il y a un ordre. Il est premier. Mais le Père n'est pas cause du Fils. À dire ça. Vous pouvez dire que l'Esprit Saint est source de l'humanité sainte du Christ par Marie. Donc il est cause. Il est cause de l'humanité du Christ. Et l'humanité du Christ est soumise au Père. Elle est soumise à l'Esprit Saint. Bien comprendre ça. C'est délicat. C'est très important. Oui.
Un peu flou.
Vous voyez ? Oui. Vous dites que le Père est premier, le Fils est second. Donc il y a un ordre.
D'accord.
Et s'il n'y a pas de causalité, parce qu'il n'y a pas de dépendance. Et s'il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'autorité. Donc le Père n'exerce pas son autorité sur le Fils. L'autorité va exister dès qu'il y aura l'Église. Dès l'humanité sainte du Christ, il y a autorité. Et l'autorité repose à partir de là. Oui, ça qui est très important. C'est à partir du mystère de l'incarnation qu'on peut parler d'une autorité. Parce que l'humanité sainte du Christ est causée par l'Esprit Saint en Marie, dans le Verbe qui l'assume. Bon, alors, quand il s'agit des processions, les processions divines sont immanentes. La mission, c'est toujours ad extra. C'est toujours à l'égard d'une créature. Le Fils, le Père a envoyé son Fils aux hommes. C'est à l'égard, il y a toujours ad extra. Tandis qu'ici, ad intra. Procession immanente. Toute la question du traité de la très sainte Trinité, c'est d'essayer d'ordonner les deux processions. Parce que je sais qu'il y a deux processions. Je le sais par la révélation. Je le sais par l'écriture. Je ne pourrais pas les inventer. Donc il y a deux processions. Il y a combien de missions ? Mission. Si toute mission présuppose une procession, il n'y aura donc que deux missions. Deux missions. Qu'est-ce qui est envoyé ? Le Fils et l'Esprit Saint. Au sens strict, le Père ne peut pas être envoyé. Il est premier. Celui qui est premier ne peut jamais être envoyé. Il nous est donné. C'est très beau. Le Fils est envoyé, l'Esprit Saint est envoyé, et le Père nous est donné. Il se donne à nous. Au sens strict, le Père n'est pas envoyé. Il ne peut pas être envoyé. Donc, voyez, quand il s'agit des processions, elles sont deux. On dira procession selon l'intelligence. Et selon l'amour, procession selon l'intelligence, le Verbe, procession selon l'amour, l'Esprit Saint. On la verra tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas la développer maintenant. On la verra tout à l'heure, la seconde procession de la très sainte Trinité. Donc, ces deux processions. Ce qui est important, c'est de saisir l'ordre. C'est la question posée. L'ordre. Pourquoi commencer par l'intelligence ? Est-ce que ce n'est pas un anthropomorphisme effrayant ? Est-ce que ce n'est pas une projection sur le mystère de Dieu effrayant ? En nous, dans l'homme, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. C'est vrai, intelligence et volonté. L'ordre entre les deux est très difficile à préciser. Je dirais, l'intelligence est première dans l'ordre de la noblesse, dit saint Thomas. Et la volonté est première lors de l'exercice. C'est très beau, ça. Parce que c'est parallèle, l'intelligence et la volonté. Mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes chez qui l'intelligence est beaucoup plus développée que leur volonté. Ça existe. Tous connus, des gens très intelligents qui n'avaient pas un pouce de volonté. Mais c'était très intelligent. Il leur manquait de volonté. Ils tombaient dans un dilettantisme absolu de l'intelligence. Des artistes. très intelligents, des artistes très intelligents. C'est l'intelligence là, l'intelligence pratique, pas de volonté du tout. Je travaillais absolument que quand le bon plaisir leur était donné. Quand il y avait du soleil, pour un peintre, pas de soleil, je dis, vous pas intéressant du tout. On fait rien. On reste couché toute la journée, ça vaut mieux, ce sale temps. Venez. Les artistes comme ça. Il y a toujours un petit artiste en nous qui fait des petites alliances. Vous voyez, avec la paresse. Ça, c'est merveilleux. Bon, l'intelligence est distincte de la volonté. Ça, c'est sûr. La volonté, selon saint Thomas, c'est une capacité pour aimer. C'est pas seulement une capacité d'efficacité, une capacité d'aimer. Alors, je compare les deux. Je dis que l'intelligence, alors, distinguez bien intelligence et raison. Pas la même chose du tout. L'intelligence, c'est un discernement. L'intelligence, c'est une pénétration. On distingue le nécessaire de l'accidentel. Par les gens intelligents. Tout de suite. Ils saisissent ce qu'est nécessaire. L'accidentel, ils le laissent tomber. Tandis que les gens pas très intelligents font toujours des confusions complètes entre ce qui est nécessaire et ce qui est tout à fait accidentel. Et des fois, dans des circonstances particulières, c'est l'accidentel qui les intéresse. Le nécessaire, ils le laissent tomber. Ils manquent d'intelligence. La raison, c'est de raisonner. Trouver des arguments. Il y a des gens qui raisonnent indéfiniment, c'est la logique. Des gens qui raisonnent indéfiniment, ils ne sont pas très intelligents. Ils raisonnent. Et ils aident de raisonner pour peupler la conversation. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien. Pas un pouce d'intuition. Pas un pouce. Il y a uniquement le raisonnement. C'est l'intelligence ici. Il faut bien distinguer l'intelligence de la raison. Je ne regarde pas les deux. Je regarde l'intelligence et la volonté. Je dis que l'intelligence a une noblesse. Parce que l'intelligence regarde directement ce qui est premier. La volonté regarde le bien. La fin. C'est de l'ordre de l'exercice. C'est l'amour qui pousse. L'intelligence, c'est la connaissance. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, l'intelligence structure et donne l'autonomie. Pas la volonté. Puisque par l'amour, je suis dépendant. Tandis que quand je connais, je suis indépendant. Dès que j'aime quelqu'un, je suis dépendant. C'est pour ça que des gens très intelligents ont beaucoup de peine d'aimer. Parce qu'ils sont arrivés à être dépendants. Pas très agréable. Pour l'intelligence. Alors, pour l'homme, c'est très net. Est-ce que pour Dieu, j'ai le droit de dire que lorsqu'il s'agit de Dieu, l'intelligence doit être regardée en premier lieu et la volonté en second lieu? Quand saint Thomas traite de Dieu en lui-même, il traite d'abord de l'intelligence de Dieu, puis de la volonté de Dieu. Ce qu'on appelle les attributs de Dieu. D'abord l'intelligence, puis après la volonté. Est-ce que c'est juste? Selon la révélation, nous sommes dans la foi, hein. Selon la révélation, qu'est-ce qui est révélé en premier lieu? Il est révélé en premier lieu, je suis. Et ensuite, Dieu est amour. Il est révélé en premier lieu que Dieu crée selon sa sagesse et que Dieu est infiniment miséricordieux. Mais c'est le je suis qui est révélé avant que Dieu est amour. Or, le je suis montre l'intelligence de Dieu. Donc la révélation commence par révéler l'intelligence de Dieu, la sagesse. Tu es lumière. Dieu est amour. Toujours. Toujours la lumière. Dieu est amour. En premier lieu. Pourquoi ? Parce que. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est ça. Oui, mais ça c'est pour nous.
Pour nous, oui.
En Dieu, il y a l'unité absolue. Lumière et amour ne font qu'un. Connaissance et amour ne font qu'un. Oui. Alors, quand je projette la priorité de la connaissance sur Dieu, et en second l'amour, est-ce que c'est une projection de l'ordre humain sur Dieu ? Si c'est une projection, c'est en psychologique, c'est ce qu'on dira, c'est de l'anthropomorphisme. C'est pas légitime. Mais les anciens disaient, l'éléphant dit que Dieu, c'est le super éléphant. C'est très joli, tu vois. Bon, nous avons la tendance à considérer que Dieu, c'est le super homme. Pas concevoir Dieu autrement qu'un homme, quoi. Il n'y a rien de mieux que l'homme. C'est le super-homme. Avec la ratio monomythologique, on appelle la ratio. Oui, rationnie, rationnitisme, c'est ce qu'elle est traduit, ce qu'elle est. Et la fin dit ça admirablement. On lui regarde en latin. Rationnitisme, et tous regardent la rationnitisme. Alors, le bien a pris toujours la lettre. Tandis que la lettre n'implique pas toujours le bien. Donc, vous voyez que ce n'est pas à cause de l'homme et du conditionnement humain que c'est objectif. L'intelligence est première. Elle est plus fondamentale. Elle est ultime. En lui-même. Et le bien est quelque chose de second. Présupposé. Comment est-ce qu'il y a pour voir ça ? Prenez l'être en acte de se comprendre ce que c'est que le bien. Tandis que le bien, comme une belle, il ne fait pas comprendre ce que c'est que l'être en acte. C'est très supposé.
Je veux dire, je regarde le bien pour le bien.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je regarde le bien pour le bien. Je veux dire,
je veux dire. Dans l'ordre, des modalités, je peux faire un axe. C'est pas d'importance. Je n'y reste que bien avant, mais on est naturel. C'est un peu juste, d'une certaine manière. Et c'est au niveau irrationnel des raisons. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Parlez de l'intelligence. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Qu'est-ce que c'est d'avoir l'esprit? Je veux savoir ce que c'est que l'esprit. L'esprit la plus intelligente et bon. Et l'esprit implique dans sa structure profonde et première l'intelligence. Et dans sa structure seconde, l'avantage. Et ça sera même la ratio. Bon, on va s'arrêter là. Oui, c'est pour ça que la procession selon l'intelligence est antérieure. Et antérieure scientifique, sans être une projection. C'est objectivement comme ça. C'est en question.
Oui, c'est dans l'équation du vivant. On peut l'affronter que si l'intérêt n'est pas source du vivant, comment ça va prendre dans les agents physiques, dans le principe et les élans ? Il y a une source.
Il y a une source. Mais une source est première, elle n'est pas cause.
Source est deuxième. source de notre ensemble.
Oui. C'est source pour le même principe. Tu as ce mot, cette idée principale, elle a appelé ce principe. Je traduis source pour que ce soit un peu plus joli. Mais en France, c'est ça. Oui, alors, tout de suite, je regarde la mission avant de terminer. Quelle est la première mission pour nous? Est-ce que c'est la mission du verre ou la mission de l'Esprit Saint? La mission? Non. L'Esprit Saint, je vous ai donné la première. Donc c'est le bien. C'est l'amour. Dans l'ordre de l'exercice. Et par l'Esprit Saint, je peux dire Jésus. Je ne peux pas dire Jésus, les fils de Dieu sont les fils. Et donc on va dans l'inverse. C'est toujours normal, puisque je suis dans l'ordre pratique. Dans l'ordre pratique, l'amour est antérieur à la connaissance. Et quand vous donnez des conseils à quelqu'un qui se marie, faut-il mieux qu'on se marie avec un homme très bon ou un homme très intelligent? Donner un conseil. Vous dites, il vaut mieux les deux. Mais si vous devez choisir, qu'est-ce que vous direz? Dans la pratique, il dirait qu'il vaut mieux. Étant donné ce que c'est que le mariage, épouser un homme très bon. Oh bête, c'est pas mieux. Il est plus fatigant qu'un homme bête. Une femme bête, on la supporte. Mais un homme bête, non. C'est insupportable. La confidence, mais quand une femme est intelligente et qu'elle épouse un homme bête, c'est insupportable. Ça tient pas moi. Alors on arrive à s'entendre, mais il ne faut pas se voir trop longtemps, par jour. C'est insupportable. Et donc, c'est la pratique de dire ça. Pour les défilés, les manifestations, c'est la nature. Moi, j'aime d'avoir un homme qui est d'accord. C'est toujours pas. C'est très difficile d'épouser un artiste. C'est très difficile. Parce que l'artiste, il est intelligent comme artiste. Il aime la loi. Il est intelligent. Son cœur, quelquefois, il aime quelquefois mieux sa gloire que son épouse. Quand vous épousez quelqu'un de très intelligent, il aime mieux la vérité de son épouse. Ah, la vérité devient rival, je me souviens. Ça fait partie de ces expériences qu'on a. Dans les professeurs de philosophie, on a quelquefois des étudiants qui vous sont très attachés. Si l'étudiant se marie, et l'épouse devient jalouse, mais terriblement jalouse, du professeur de philosophie. Ils voient que leur mari aime la vérité. Et que d'une certaine manière, ils manifestent tous qu'ils aiment la vérité. Alors, on devient objet de haine. De terrible jalousie et de haine. C'est extrêmement cruel. Ça existe, c'est évident, c'est une évidence humaine. Il n'y a pas de mariage, ça existe quelquefois même dans la vie. Ecclésia.
Et justement, la prédilection de l'amour, elle se pointe du côté de l'intelligence.
La prédilection
de l'amour, dans l'immanence de l'amour humain. Oui, le fils bien-aimé du Père.
Ah, la présente Trinité. Le fils bien-aimé du Père. Il est fils, il est bien-aimé. Le verbe bien-être.
C'est la prédilection d'amour, elle est bien. De lumière.
Oui, de l'intelligence. Elle prend vraiment l'intelligence. C'est sûr. Évidemment, on dit, comme c'est Dieu, lumière et amour, ils font qu'un. Mais de fait, il est fils en tant qu'il est verbe. il démenait en partie vers l'autre. Dans le cours, dans un quart d'heure.